Claude Askolovitch, on parle de corps ce matin.
Le corps et les muscles qui auront été la fuite de Sylvester Stallone que le monde rencontre aujourd'hui dans un portrait bouleversant en ligne ce matin dans le magazine tout à l'heure. Stallone dont va sortir un nouveau Rambo et qui à 73 ans compte le temps qui lui reste et il devient sensible, dit-il, au moindre mouvement d'aiguille de sa montre au poignet. Il n'a rien oublié. Petit, Stallone s'entraînait à sourire pour amadouer les enfants qui moquaient son menton de travers et le battaient à coups de bâton. Son père lui dit un jour, tu n'es pas né avec un cerveau très développé, alors tu ferais mieux de commencer à t'appuyer sur ton physique, et au lycée on lui promettait la chaise électrique. Mais il est devenu Rocky, qui devait réussir ou revenir au néant. Il est Rambo, le soldat perdu qui s'effondrait en larmes dans les bras de son colonel. Stallone, dans la vraie vie, pleure souvent quand il se souvient. Il sait, chaque seconde du premier jour de tournage du premier Rocky, il faisait moins 9 degrés à 14h30 d'un matin de janvier 76. Je suis né ce jour-là, dit-il, qui peut prétendre avoir été témoin de sa naissance. Il se souvient aussi des nuits qu'il passait dehors auparavant, SDF juvénile, qui réalisa un jour que la New York Public Library était ouverte tard le soir et qu'elle était chauffée, et dans ce refuge, il lui Edgar Poe, il aura rêvé toute son existence de jouer au cinéma, le poète incompris. Les surhommes ont donc une âme, en doutiez-vous. Nous parlons alors ce matin des corps et des souffrances qui nous grandissent. L'équipe espère que nos basketteurs en demi-finale mondiale vont nous faire rêver encore et raconte l'apprentissage d'Ervan Gobert, notre meilleur marqueur qui se forma à ne jamais abandonner auprès de la dureté de ses parents champions de judo et en admirant des leveurs de fonte, Stallone n'est pas loin. La Provence, me dit un cycliste amateur qui a fait Paris-Brest en moins de 50 heures de pédalage sur un vélo à pignon fixe. Tampon, excellente revue qui est, c'est vous dire, le frère en rugby de SoFoot nous prépare à la Coupe du Monde qui commence bientôt et raconte l'équipe de France de 1987, finaliste de la première édition. Des gaillards amateurs qu'on faisait alors voyager en classe éco. Pendant la compétition, le pilier Garuet discutait au téléphone avec ses frères. Resté à Lourdes, le prix de la patate, il y avait un coup à faire en achetant 25 tonnes. Et avant la demi-finale contre l'Australie, l'entraîneur Jacques Fourroux lâcha ses hommes dans un entraînement de cons, dit Garuet. Sans limite, où les remplaçants voulaient faire la peau au titulaire et des os fut brisé. C'était des corps de France.
Et on parle aussi du corps des sportives, Claude.
Qui, après leur carrière, doivent affronter ce corps pour devenir mères. Elles ont trop attendu, on n'est plus aussi fertile passé la grande trentaine. Valérie Nicolas, qui fut championne du monde de handball, a renoncé. C'est dans le magazine du Parisien qui rencontre aussi en Belgique une championne. Médaillée olympique en train de congeler ses ovocytes. Elle reste anonyme, c'est illégal encore en France, mais on en débat pour notre loi bioéthique. La Croix s'inquiète d'ailleurs d'un marché de la procréation. Notre championne espère un enfant après les Jeux de Tokyo, son corps n'est plus un obstacle. Il est ce matin ce corps, la tristesse de Pauline Le Carpentier que raconte La Voix du Nord. Elle est lutteuse, elle était prête à partir au championnat du monde au Kazakhstan, mais dans son dernier stage, elle est tombée malade et elle n'a plus été capable de suivre le régime qu'elle s'imposait pour être dans sa catégorie. Continuer aurait été du suicide, dit son papa. Il est d'autres souffrances qui éclipsent tout. En Iran, une jeune femme de 29 ans, Sahar, a sacrifié son corps et sa vie. On l'avait arrêtée au printemps dernier, déguisée en homme pour pouvoir pénétrer dans un stade de football. Elle a appris le 1er septembre qu'elle risquait 6 mois de prison. Elle s'est immolée par le feu devant le commissariat qui l'avait convoquée. Son histoire est sur le site de Paris Match, sur Mediapart et le site du Figaro, où vous verrez son visage. Elle est maquillée et porte un châle bleu, la couleur de Esteghlal, le club de football qu'elle aimait, qui porte son deuil sur les réseaux sociaux. Elle nous aimait en dépit de cette loi qui interdit aux femmes d'aller dans les stades. Qu'avons-nous fait pour l'aider? Rien. Nous sommes des lâches, dit le club de football. Un martyr peut-il renverser une dictature? Je pensais à ça en lisant dans Slate un reportage à Sidi Bouzid, où en décembre 2010, un homme s'était immolé par le feu. Ce fut le début de la révolution. On vote cette fin de semaine en Tunisie, mais à Sidi Bouzid, où l'économie est en berne et l'inflation nous ronge, on ne votera pas, on ne croit plus en la politique. Mohamed Bouazizi a-t-il brûlé pour rien?
Le voile islamique dans Marianne, Claude.
Marianne, journal d'une ferme laïcité qu'on lit ce matin forcément ébranlée par ce qu'on a lu de l'Iran. Mais est-ce la même histoire? Marianne qui revient dans un dossier très riche sur les collégiennes de Creil, qui il y a 30 ans défrayait la chronique en venant voiler au collège Gustave Havèze. Ce fut le début de nos affrontements sur la laïcité, mais nous aurions, dit Marianne, perdu. Perdu, je ne sais, ou perdu en tout cas la raison, le Parisien me raconte un diplomate français en poste à l'étranger qui avait rejoint contre les musulmans un groupe terroriste qui voulait empoisonner la viande halal. Nos passions nous égarent, elles nous rendent aussi idiots. J'en termine avec Libération, qui évoque une querelle dérisoire mais pourtant réelle. Des candidates, futures enseignantes à l'agrégation de français, se sont émues d'un poème de Ronsard qui, ont-elles dit, célébrerait le viol. Je voudrais bien, richement jaunissant, en pluie d'or goutte à goutte descendre, dans le beau sein de ma belle Cassandre, je voudrais bien, en taureau blandissant, me transformer pour finement la prendre, dit ce poème d'amour. Sabine Procoris et les philosophes et psychanalystes renvoient dans Libération les trissotines à leurs études dans une explication de texte et elle oppose à ces fantasmes militants pour qui tout se vaudrait un récit de viol réel d'une femme libérienne par des soldats. Il est raconté par Le Monde qui a fait il y a quelques jours le portrait d'une guerrière de la paix dans ce pays. Elle s'appelle Leïma Gbowee. Lisez-le et en lisant vous comprendrez qu'on ne peut pas mélanger les combats. Les atrocités de l'existence rendent immondes certaines fantaisies.
Merci Claude Haskolovitch pour cette revue de presse.